Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à poutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour, nous sommes le mercredi 18 juin. C'est bientôt l'été, bientôt une nouvelle période pour le cinéma. Bonjour Manu.
Bonjour.
Et bonjour Marine. C'était un petit suspense, mais bon.
Et bonjour à tous.
Parce que d'habitude, on commence toujours par la fille. Enfin, tu vois,
oui.
On a cette élégance, et y compris oui. À Cinérama. Alors, aujourd'hui, un sommaire avec un film chacun, en ce qui vous concerne. Alors, toi, Manu, c'est
Black Call, film chinois qui a eu l'Ours d'Or à Berlin. Et puis, peut-être que je parlerai donc aussi, enfin, sûrement, hein, d'un petit film bis estival.
Ah oui, c'est vrai, en fin d'émission.
L'invasion martienne.
Avec un superbe extrait. Et toi, Marine ?
Et puis, bah, moi, justement, à propos de filles, j'ai été voir Sous les jupes des filles. Vous m'excuserez pour le jeu de mots pourri. Et si on a le temps, je vous toucherai deux mots d'un film, justement, pas du tout de filles, Goal of the Dead, un film sur le foot et sur les zombies.
Voilà. C'est à propos. Et puis moi, eh bien, je vous parlerai de quelques sorties de cet été. Alors autant les blockbusters que les films un peu plus attendus parce que les réalisateurs sont un peu plus attendus eux-mêmes.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
1999, au cœur de la Chine. Alors, on retrouve les morceaux de cadavres d'un employé d'une carrière minière dispersée aux quatre coins de la Mandchourie. L'enquête amène l'inspecteur Zhang à interroger deux suspects, mais l'interpellation tourne au cauchemar et blessé, l'inspecteur abandonne ses recherches. Cinq ans plus tard, deux nouveaux meurtres similaires sont commis, tous deux liés à l'épouse de la première victime. Devenu agent de sécurité, Zhang décide de remonter la pente et de reprendre du service. Il se rapproche de la jeune femme mystérieuse. Alors la force de Black Call tient dans son dispositif, reprenant à la lettre les codes du film noir des années 40 sans qu'on y prenne garde durant la vision du film. Alors cette évidence vient après coup et ne semble pas plaquée, ce qui permet au film d'éviter le pénible exercice de style à la manière d'eux. Pourtant, on retrouve intact tous les archétypes du polar classique adapté de Raymond Chandler ou d'Achille Lamette, c'est-à-dire le héros taciturne et désabusé, refroidi par une première enquête foirée, la femme fatale ambiguë et secrète, et autour d'une intrigue tortueuse avec des ellipses, des trous béants que le spectateur doit combler un peu à la manière du grand sommeil. Alors, je ne sais pas si j'ai bien le prononcé, n'étant pas chinois, Yinan Diao, le réalisateur, qui était auteur déjà des excellents...
Hein ? Non, c'est pas du tout comme ça qu'on dit.
Ah bon ? Comment on dit, Marine ? Vas-y.
Tu veux pas. On en parlera plus tard.
D'accord, on en parlera plus tard. Alors, il avait déjà réalisé les excellents Train de nuit et Shower, et il s'empare donc d'une intrigue assez classique en apparence et complexifie à outrance le déroulement de l'enquête au point de nous perdre complètement à plusieurs reprises. Mais cette volonté d'égarer le spectateur est une clé du genre, une manière de le plonger dans un univers trouble et cauchemardesque. Les films noirs trop lisses, linéaires, où chaque rebondissement et détail sont surlignés, ne restent pas dans l'histoire. C'est comme ça. D'ailleurs, la seule déception réelle du film tient dans sa résolution de l'intrigue, un peu trop évidente et cartésienne. Le plaisir d'être perdu dans les dédales d'un récit sinueux est pour moi l'une des grandes qualités de ce film chinois, assez loin de la production officielle des cinéastes un peu connus comme Zhang Yimou ou Chen Kaige. Alors, Black Call reprend aussi à son compte l'aspect social et politique inhérent au genre, qui, derrière l'intrigue, reste aussi une manière de dépeindre un pays en mutation sous ses aspects les plus sombres et crépusculaires. Alors, la Chine, entre 1999 et 2004, alors curieux hein, de se situer comme ça le film dans un passé contemporain, c'est assez étrange. Alors, la Chine apparaît comme une nation glaciale et répressive, peuplée de flics corrompus et d'individus apeurés. Alors, cette touche politique est assez subtile, hein, inscrite au programme en filigrane, en arrière-plan, mais contribue à la noirceur du propos et à l'ambiance mortifère dégagée par le film. La mise en scène, d'une beauté assez aride, peut déconcerter au point de laisser le spectateur en retrait. Alors c'est le risque de ce type de cinéma qui demande un effort d'implication, mais il y a de vraies trouvailles stylistiques à l'image de la manière de gérer l'ellipse de 99 et à 2004 à l'intérieur d'un tunnel, un coup de génie visuel indéniable, hein, je n'en dis pas plus pour ceux qui vont le voir. Il y a aussi une incroyable poursuite en patin à glace qui joue de façon très habile sur la durée. Le film s'inscrit dans une... Enfin, c'est très long et pourtant très envoûtant cette séquence et c'est assez curieux. C'est la première fois que je vois une poursuite en patin aussi.
Hein. Il y avait le... Ah non.
Mais ça fait patin de fond en fait, c'est pas le patin à glace rapide. Alors cela dit, un petit peu de sensualité d'émotion pouvait qu'apporter une dimension humaine un peu plus forte en fait. Hein. Il s'agit d'un petit bémol pour une vraie découverte, un film remarquable au titre anglais Idiot, Black Coal. Qui veut dire donc charbon noir. Alors, sans déconner, on a l'impression que là, les distributeurs ne souhaitaient que personne n'aille voir le film, alors que le titre original, c'est Feu d'artifice en plein jour, et qui est quand même plus attrayant, et comme ça, qui n'a rien à voir avec le film, sauf à la fin, effectivement, on a droit à un feu d'artifice en plein jour.
N'en dis pas trop.
Mais un feu d'artifice qui n'a rien à voir avec l'histoire. Hein. Mmh. Mais il y a une fin assez curieuse, assez plein, avec un humour assez particulier. Donc je conseille vraiment ce film noir, très sombre. Et...
Comme le charbon, quoi.
Oui, mais évidemment, mais Black Coal comme ça, pourquoi déjà mettre un titre anglais sur un film chinois ?
Ça, j'en avais déjà parlé, hein, c'est un truc qu'ils font à chaque fois.
C'est assez étrange.
Après, il faudrait voir comment les Québécois l'ont sorti, parce qu'ils n'anglicisent jamais les titres. Donc voilà. Non, c'est des recherches qu'on a à faire, hein, tout ça, après l'émission. Alors, vous partirez en tout cas avec des images du patineur de... Alors, pas de fond, mais presque. Enfin, non, le patineur de fond.
Patineur de fond, oui.
Et voilà, je repensais à la fille du RER. Téchiné avait filmé une fille qui faisait du patin à roulette, me semble-t-il. C'est Cinérama avec du patinage aussi, même si c'est un moment de Coupe du Monde.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passerait aisément.
Sur Divergence FM.
Et on continue donc avec Sous les jupes des filles de Audrey Dana. 28 premiers jours du printemps à Paris, 11 destins de femmes se croisent et se télescopent. Il y a Rose, incarnée par Vanessa Paradis, une executive woman accomplie, qui peine à bien s'entendre avec les autres filles. Isis, la jeune mère au foyer, la conductrice de bus pleine de tics et de frustrations sexuelles, etc., etc., etc. Autant vous dire que, vu le niveau des dialogues et les actrices sous-exploitées, on n'est plus dans le film choral, mais carrément dans le film karaoké. Sous les jupes des filles s'inscrit dans cette nouvelle tradition de films de filles, faits par des filles pour des filles, qui se revendiquent comme n'étant absolument pas féministes. Parce qu'en France, contrairement aux États-Unis, le féminisme ne fait pas vendre, c'est bien connu. Et là est le problème. En confondant féminisme et militantisme, et en fuyant tout sujet pouvant prêter un tant soit peu à réflexion, le film se retrouve obligé de parler des femmes en ressassant des clichés éculés.
Moi, c'est la fidélité que je comprends pas. Moi, je trouve ça d'un ennui mortel de coucher avec la même personne, mais toute la vie, quoi. T'as vu que tu rentres tous les soirs chez toi.
Oh, encore lui.
S'il y avait été fort sur le parfum, Grégory, ce matin, ça sent la cocotte.
C'est un taux de testostérone incroyablement élevé. C'est toujours le cas avec des femmes comme vous.
Et c'est quoi, les femmes comme moi?
Intelligentes, puissantes. Qui gagnent 4 fois mon salaire au bas mot.
Je suis dans ça.
Super, super.
Bonsoir tout le monde.
Chérie, t'as pas vu mon portefeuille? J'ai pas...
Je suis la babysitter.
Pas de problème.
Je la voyais pas du tout comme ça, moi.
Comment ça, comme ça?
Avec des seins.
Ah, c'est ça, en fait. Tes petits seins à toi, ça te travaille.
Tes petits seins.
T'as envie de te les refaire?
Tu veux te refaire la bite, toi? Une belle bite. C'est très excitant.
Je suis copue. Excusez-moi, j'ai des cornes, j'ai du mal à passer les portes.
Mais c'est rien, ça cuit, c'est rien.
Ce sont des amis d'enfance qui m'adoraient, que je souhaite recontacter.
C'est quand même dingue, hein, tout ce qui se disait sur toi au bahut.
Ah ouais?
C'est ça qui revenait, tu vois, lui crever les yeux à cette pute. Cette connasse.
Tu bouges pas.
Tu es déçue, je la pensais plus jeune. Un joli sein.
Ça, c'est gentil.
Et ils sont refaits?
Non.
Pardon?
Je dis oui.
Je sais.
J'en peux plus, Pierre. Je veux être une femme. Voilà, je parce que je suis une femme. Je suis pas qu'une maman. Je veux du champagne. Je veux des bugs. Je veux que ça pète, que ça explose. Je veux des arcs-en-ciel même quand il pleut pas. C'est ça que je veux.
Allez, bonsoir.
C'est tout ça que je veux, Pierre.
femme.
Je suis célibataire.
Alors, la première scène donne le ton. On voit Audrey Dana, donc la réalisatrice et actrice du film, se mettre un tampon hygiénique et s'essuyer ses doigts pleins de sang sur un mouchoir, les gouttelettes de sang menstruel s'envolant ensuite dans le ciel pour former le titre. Oui, c'est du gros niveau. Et l'ambition du film n'ira pas plus loin que cela, réduire la condition féminine à une malédiction mensuelle et les filles à de simples esclaves de leurs hormones. Là où les gazelles de Mona Achache, sorties il y a 2 mois environ, parvenaient à cerner la trentenaire des années 2010 et à divertir avec fraîcheur et insolence sous les jupes des filles qu'on fond audace et vulgarité. Les personnages ne sont pas développés, réduits à des caricatures de films chorales, et c'est dommage parce que certaines idées étaient quand même assez jouissives. La réalisatrice fait quand même péter Laetitia Casta. Oui, Julie Ferrier est comme d'habitude excellente et Vanessa Paradis écope pour une fois d'un rôle de garce qui dépoussière un petit peu son registre habituel. Mais tous les tics agaçants des comédies de filles sont là, le final en forme de comédie musicale, la garde-robe hors de prix et non exhaustive des personnages, la bande-son crispante et l'apothéose du film et de la torture étant atteinte lors d'une scène de soirée-fille. Et puis alors, qu'est-ce qu'on fait dans une soirée-fille? Bah, on pouffe en buvant du vin, on se moque des garçons qui sont pas là, et on appelle une fille au téléphone pour la traiter de salope. Wouhou ! Voilà, arrachez-moi tout de suite les ovaires. Et bah, justement, en parlant des ovaires, quant au corps des femmes, bah, parlons-en, on a quand même rarement aussi mal filmé les corps, et le film qui entend célébrer la beauté féminine sous tous ces aspects se transforment en catalogue. Alors entre celles qui abusent de la muscu passé 40 ans et celles qui sont figées dans leur botox, Adjani notamment a une présence assez pathétique, elle arrive à peine à bouger la bouche quand elle parle. Le film ne fait absolument pas l'éloge du corps libéré et partage au contraire l'humanité en deux groupes, les loseuses qui sont sapées comme des sacs à patates et les gagnantes qui sont élégantes et sexy. L'évolution sociale, vous l'aurez compris, consistant à passer de la première à la seconde catégorie. Et le fait de confondre réussite, hypersexualisation et fringues de marque constitue un amalgame qui est habituellement l'apanage de la presse féminine. Et c'est bien là le souci majeur du film. Exactement comme un magazine féminin, Sous les jupes des filles joue la connivence avec son public, mais véhicule une image de la femme consternante et réductrice, au point que l'on pourrait croire qu'elle a été réalisée par le plus beauf et le plus misogyne des metteurs en scène. Pour vous situer, Les Infidèles, c'est un film moins sexiste. Voilà, c'est dire. Donc au final, la démarche, elle est lâche et contre-productive, puisque les personnages présentés comme incarnant chacun une facette de la féminité restent cantonnés aux pires aspects féminins. Alors c'est simple, il n'y en a pas une avec qui on a envie d'être pote. Pas une. On a l'impression que la dizaine des personnages en fait représentent les 10 plaies d'Égypte. Elles sont hystériques, elles sont coincées, infidèles, névrosées. Alors qu'en revanche, les personnages masculins sont hyper cool. Ils sont ouverts d'esprit, ils sont sympas, ils sont compréhensifs. Donc en conclusion, ce qui se passe sous les jupes des filles est si peu excitant qu'on a davantage envie de s'intéresser au cœur des hommes. C'est quand même un comble. Voilà, n'allez pas le voir.
Je vais peut-être aller le voir finalement.
N'allez surtout pas le voir. Voilà, donc en gros, c'est ça les seuls personnages un tant soit peu intéressants et bien écrits. C'est les personnages de mecs et qui sont quand même très en retrait évidemment, puisque c'est un film de filles. Et je plains vraiment tous les mecs que j'ai vus dans la salle qui étaient là avec leurs copines. Je pense qu'ils ont juste eu envie de devenir gays ensuite, quoi, parce que. Enfin voilà, c'est à s'arracher les cheveux.
Ils se sont aperçus en plus que les filles pétaient, donc
ça donc choc, voilà, ils sont rentrés chez eux consternés.
On avait déjà eu un aperçu avec Julianne Moore quelque temps avant.
Oui.
Ah oui.
Dans Maps of the Star. Non,
oui. Toi, tu l'avais raconté, moi, je l'ai toujours pas vu, donc je suis toujours pur. C'est Cinérama, oui, donc on ne le recommande pas. Donc
non, pas du tout. Ah, voilà. Et en plus, le pire, c'est que ça cartonne. C'est passé en tête du box-office. C'est incroyable parce que les Gazelles, donc, qui est sorti il y a 2 mois, qui était vraiment sur la même thématique, étaient bien meilleurs pour moi. Et là, on ne sait pas pourquoi, ça cartonne. Bon, bah voilà.
Histoire de casting, peut-être.
Box-office, c'est raison que la raison ne connaît pas.
Qui êtes-vous ?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Sur Divergence FM.
Allez, passons maintenant aux bons ou mauvais films de l'été. Hein, si les intermittents du spectacle vivant font grève, ceux qui travaillent dans le cinéma sont loin de laisser leur poste vacant. Aussi, les films continuent de se tourner et d'autres vont sortir, d'autant qu'une grande partie des écrans sera consacrée au cinéma américain. Et ça va commencer avec le dernier film où apparaît Johnny Depp, Transcendance. Eh oui, il sort même avant le début des vacances, mais profitera de la fête du cinéma. Alors le pitch est clair, hein, mais peut-être un peu trop simpliste. Dans un futur proche, un groupe de scientifiques tente de concevoir le premier ordinateur doté d'une conscience et capable de réfléchir de manière autonome. Alors il doit faire face aux attaques de terroristes anti-technologie qui voient dans ce projet une menace pour l'espèce humaine. Alors, la bande-annonce s'ouvre sur une citation d'Albert Einstein, peut-être que le film aussi, hein, comme pour se donner une caution scientifique, ça commence bien. C'est un film de science-fiction, anticipation, catastrophe avec une pointe d'amour. Tous les ingrédients sont là pour rameuter un maximum de spectateurs. Alors évidemment, on y verra un déluge d'effets spéciaux. Morgan Freeman, Rebecca Hall, Paul Bettany complètent le casting. À noter que le réalisateur est plutôt un faiseur d'images puisqu'il s'agit de Wally, alors là, je crois que ça se dit Pistern.
Non, je sais pas.
Chef-op de Christopher Nolan, donc notamment sur Memento, les Batman ou Inception. Et là, donc, il passe du côté de la réalisation.
L'intelligence artificielle améliorera l'avenir pour nous tous.
Une fois en ligne, la capacité d'analyse de la machine sera supérieure à l'intelligence collective de l'ensemble des individus, de l'ensemble de l'histoire du monde.
Professeur ?
Si elle le connecte à Internet, il commencera par se dupliquer et il n'y aura plus moyen de l'arrêter.
Tout le monde a peur, évidemment.
Et Johnny Depp, qui est en plusieurs exemplaires, c'est pas très grave, en même temps.
Ouais.
Je sais pas, ça a l'air d'être une menace, mais...
On ferait peut-être mieux d'aller voir Zéro... Alors, je vais le prononcer à la française, théorème, parce que je pense que ça se dit theorem, je sais pas quoi. De Terry Gilliam, dont le pitch est bien plus fantaisiste entre Pete Aronofsky et Robocop. Hein. On est dans un futur proche, à Londres, où les avancées technologiques ont placé le monde sous la surveillance d'une autorité invisible et toute puissante, ça s'appelle Management. Alors, intervient un génie de l'informatique qui bosse pour le compte de Management. Son boulot, eh bien, c'est de décrypter le but de l'existence, eh oui, ou son absence de finalité, une bonne fois pour toutes. Alors là aussi, il sera question d'amour, mais à la manière de Terry Gilliam, dans un monde fantaisiste et décalé. Alors au casting, on a Christophe Waltz, David Tulis, que je suis bien content de retrouver, parce que je l'avais vu dans Naked. Oui, enfin, c'est le fameux rôle de Naked, mais il y a très très longtemps, un film de Mike Lee. Et puis, il y a la Française aussi, Mélanie Thierry. Alors, au rayon science-fiction et super-pouvoir, Besson s'en mêle en prenant Scarlett Johansson qui incarne Lucie, donc en référence, j'imagine, à notre cousine australopithèque. Et ben là, le pitch, c'est à la suite de circonstances indépendantes de sa volonté, on a placé une drogue dans son ventre qui explose. Et
c'est Ça, c'est juste la bière. Hein, c'est ouais. Pas...
Et donc, c'est cette jeune étudiante hein, qui portait ce petit sac dans son ventre, eh bien, voit ses capacités intellectuelles se développer à l'infini. La substance colonise son cerveau et donc, elle acquiert des pouvoirs illimités. Alors, on se souvient du film Limitless de Neil Burger, hein, où une substance étrange en phase bêta décuplait les capacités humaines. Avec Besson, c'est la surenchère, on parle de 100% des capacités. Alors ici, nul besoin de citer Einstein, le but étant quand même de montrer qu'un meilleur cerveau signifie un meilleur maniement des armes, puisque Johansson bute qui elle veut, quand elle veut.
Tu parles anglais ?
Non.
Et toi, tu parles anglais ?
Oui.
Alors, comme elle a des dons de télékinésie, déplacer des objets, hein, comme Magneto un peu, eh bien, on peut penser que si elle tire avec des armes à feu ou tranche la gorge de quelqu'un avec une lame, c'est de la perversité. Donc la femme à 100% de ses capacités serait donc toujours perverse. Voilà l'image que Besson développe dans son film qui sort dans l'été.
Et elle est étudiante ?
Elle est étudiante, oui.
Scarlett Johansson ?
Oui. Oh, ben ça, tu y arrives un peu quand même.
Oui.
Ah, petit enfin, effort, Manu.
Elle a quand même la trentaine maintenant.
Hein. Oui, mais tu sais.
Elle a 28 ans, c'est pas du tout pareil.
Tout à fait.
Oui, bon,
et puis une bonne thèse.
C'est
voilà,
vrai, hein. Ça peut mener très loin. Oui, c'est vrai.
Cet été, il y aura un match entre, d'une part, Crocmo, avec Crocmo le Dragon de DreamWorks, et Plane 2, film d'animation signé Disney. Alors l'un s'adresse à tout le monde quand Plane 2 risque de lasser les adultes accompagnant leurs minots. Parce que si DreamWorks fait dans le développement durable, en nous replongeant au temps des Vikings, entre Cars et Plane, on peut dire que Disney cautionne plutôt le pétrole. À noter que DreamWorks a utilisé deux nouveaux logiciels pour fabriquer son film, ce qui devrait améliorer nettement l'animation. Ils permettent plus de subtilité dans les expressions faciales, les rendus de la peau, de muscles et de chair et dans la sensibilité des mouvements. Alors, c'est pas aussi troublant qu'un Miyazaki, mais le Dragon 1 était une réussite. Alors, on espère que le 2 suivra le même chemin, d'autant qu'il faut en attendre un troisième épisode, parce que le réalisateur a signé pour ça. À propos de trilogie, allons plus loin et parlons d'une tétralogie avec Transformers. Optimus Prime est pour ainsi dire décongelé dans Transformers l'âge de l'extinction avec l'increvable Michael Bay aux commandes.
Je ne vous le demanderai qu'une fois. Où est Optimus Prime ?
Jouez pas les cow-boys avec des types du Texas.
Ah !
Une nouvelle ère a commencé.
Alors, exit, Chia LaBeouf, sans doute pas assez... Oui, non, comment on dit...
Mais personne n'a jamais su,
c'est compliqué,
fait.
Parce que... Il faut le franciser, quoi.
De toute façon, maintenant, il ne fait plus de films, hein, maintenant. Il a dit que sa carrière artistique était terminée. Enfin, ça fait partie d'une longue performance qu'il met en place depuis quelques mois.
Qu'il a achevé avec Lars von Trier, merci.
C'est ça.
Ah oui. Donc, il était sans doute pas assez musclé, et donc, bienvenue à Mark Wahlberg. C'est Jason Statham qui était pressenti pour faire parler la force humaine face à ces machines surpuissantes. Alors, on a peut-être échappé au pire, du coup. Moi, je trouve les Transformers franchement indigestes, et malgré l'argent dépensé, les effets spéciaux me semblent à chaque fois vraiment trop artificiels. Alors, sinon, les Autobots et les Decepticons, et oui, ça c'est les deux, voilà. Deux variétés de robots qui s'affrontent, Marine, s'en donne à plein vérin hydraulique. Ça sort le 16 juillet et on aura sans doute mieux à faire. Alors terminons-en avec un autre blockbuster qui est aussi une franchise. C'est la guerre décidément partout, chez les robots de l'espace comme chez les singes, puisque la planète des singes, l'affrontement, sort le 30 juillet. Alors dans cet épisode, les singes représentés par César, qui menait déjà la révolte contre les hommes dans le reboot précédent, vont lutter contre des hommes belliqueux qui ont résisté à un virus dévastateur. C'est Matt Reeves qui avait réalisé Cloverfield, qui se retrouve aux commandes de cette suite. Alors l'épisode précédent avait été une réussite. L'opus avait d'ailleurs remporté un Oscar des meilleurs effets visuels bien mérités. Et l'ambiance d'enfermement avait été très bien traitée également. Alors des reboots qui pourront paraître beaucoup plus fades que les premières versions dans les années 60, qu'à peu près tout le monde a vu, j'imagine, ici, autour de cette table.
Oui, moi je les ai. Je les ai tous vus.
Toi, tu les as en Blu-ray, en DVD. Oui.
J'ai le coffret Blu-ray, oui.
Évidemment.
Ensemble, nous avons vécu l'enfer. Nous avons passé 4 ans. 4 ans à lutter contre le virus et encore 4 ans à lutter les uns contre les autres. Le chaos régnait. Mais vous, vous tous, vous savez ce que nous avons à combattre.
Je dois parler à César.
Aujourd'hui, je veux que vous sachiez que l'enjeu n'est pas le pouvoir, mais d'avoir l'espoir de reconstruire et reconquérir notre monde perdu.
Normalement, il est perdu pour un petit moment. Hein. Les films contenant des suites sur lesquelles on va vite passer les vacances du petit Nicolas, eh bien voilà, le petit Nicolas est en vacances, le titre est clair et limpide. Expendables 3, Stallone, réunit Harrison Ford, Mel Gibson et Wesley Snipes avec Jason Statham et Arnold Schwarzenegger, allez on y va. Et puis après, 21 Jump Street au lycée, c'est 22 Jump Street voilà, à la fac. Et ça c'est avec Channing Tatum, alors il paraît que c'est plus drôle mais c'est aussi plus long.
Ils sont en train de cartonner en tout cas au box-office américain.
Et le film qu'on peut attendre parce que les réalisateurs ont rarement déçu, bien, il y a L'homme qu'on aimait trop d'André Téchiné avec Catherine Deneuve et Guillaume Canet le 16 juillet. Et à la fin de l'été, le nouveau film de Denis Villeneuve qui a fait une forte impression avec Prisoners et Incendie. Donc voilà, il présente Enemy qui est un nouveau thriller qui tisse son intrigue finement. Mais on n'oubliera tout de même pas Winter Sleep de Nuri Bilge Ceylan, film palmé à Cannes qui sort en plein été. Alors pourquoi pas, ça dure 3h16 s'il y a de la clim. Comme il est question, comme on voit des images de la Cappadoce sous la neige, moi je dis, ça peut rafraîchir. Et puis parmi les prix cannois, on verra aussi Party Girl, Caméra d'or. Ça passera peu avant la rentrée.
Et la semaine prochaine, paraît-il, il y a un film assez important qui sort. C'est avec Scarlett Johansson, justement, c'est Under the Sky. Oui.
Eh bien, ça terminera donc cette petite chronique sur les films de l'été.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule...
Cinérama.
Je suis allergique.
Sur Divergence FM.
Alors je vais vous parler de l'invasion martienne qui ne fait pas partie de l'actualité cinématographique puisqu'il n'y a pas de ressortie en salle cet été et ni de l'actualité DVD puisque le film est déjà sorti il y a une dizaine d'années. L'avantage c'est qu'on peut se le procurer pour une toute petite poignée d'euros pour le prix d'un demi, pas plus.
Oui, que ça vaut pas plus.
Oh, bah, non, moi j'aime bien mais bon, je trouve ça rafraîchissant pour l'été. Alors en plein désert, une soucoupe volante atterrit. De beaux jeunes hommes habillés en combinaison moulburne sortent de la capsule du vaisseau. Ils sont accompagnés d'un monstre terrible, le Gargon. Tu connais pas le Gargon ?
Non.
Je t'expliquerai ce que c'est. Mais bon. Alors, ils désintègrent avec leur arme diabolique un pauvre chien soudainement réduit à l'état de squelette. Dalek, le gentil E.T., s'insurge contre ses méthodes inhumaines.
en même temps c'est extraterrestre, donc c'est un peu normal, et déserte le groupe. Il rencontre alors une gentille famille d'Américains moyens, serviables et le cœur sur la main, comme toute bonne famille d'Américains moyens. Alors il finira même par amour de la Terre et des Terriens, par se sacrifier pour sauver la planète. Alors si Backfilm n'existait pas, il faudrait l'inventer, tout comme d'ailleurs la chaîne Cinéfix, chaîne câblée qui passe en boucle le film, et dont on a pu avoir une version française qui a dû être faite à la va-vite récemment. Alors grâce à ce petit éditeur indépendant, hein, plein d'entrain et d'idées saugrenues, on peut prendre son panard devant quelques classiques de la série Z de SF des années 50. Alors, L'invasion martienne, Teenager from Outer Space, c'est le titre original, est un des titres les plus marquants de la collection Backfilm et surtout représentatif de l'Amérique des années 50, marqué par son anticommunisme primaire, sa peur quasi paranoïaque de ce qui est différent, son refuge réactionnaire vers des valeurs familiales saines, son programme éducatif strict visant à remettre la jeunesse dans le droit chemin. Le film véhicule toutes ces idées, mais avec une telle candeur, une telle absence de complexe devant le ridicule que le spectacle devient plaisant. Le réalisateur, qui se trouve aussi à être acteur, scénariste, producteur, responsable des effets spéciaux, cuisinier, chauffeur et coiffeur. Non, ça je sais pas, mais je me dis que dans ce type de film, ils font un peu tout. Ils doivent faire la régie aussi, parce que c'est vraiment très 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 fauché. Hein. Alors il nous gratifie de quelques séquences cultes, hein, des teenagers de l'espace au look d'arien stalinien ou de nazi marxiste, puisqu'il y a une claire référence au communisme, hein, puisqu'ils sortent un petit livre. Alors comme le film est en noir et blanc, je n'ai pas vu s'il était rouge, mais... un petit livre dans lequel il y a marqué tout ce que les extraterrestres doivent faire. Enfin, c'est leur bible à eux, en fait. Mmh. Alors, à un moment donné, ils sortent leur magnifique arme laser et transforment toute forme de vie, donc, en squelette. Alors, le squelette, il est hallucinant. Il est tout beau, tout blanc. On le croirait sorti d'un cours de biologie. Hein. Ça ressemble vraiment à Oscar. Voilà. C'est un squelette en plastique. Alors, ayant besoin de renforts, nos envahisseurs ont emmené avec eux aussi le Gargone. Je disais, c'est un crustacé mutant géant qui grandit à vue d'œil. Alors, entre une crevette et un homard, ce monstre belliqueux nous vaut quelques moments de franche hilarité. Alors, l'invasion martienne, voilà, c'est vraiment un bon nanar divertissant. Et donc, on va passer donc un extrait avec une version française particulièrement mémorable.
Attendez, capitaine. J'ai la preuve que des êtres civilisés habitent sur cette planète.
Cette civilisation n'est pas la nôtre. Quelle importance ?
Tu dévoiles encore ta vraie nature, Sor. Tout comme tu l'as déjà fait en détruisant sans aucune pitié cette pauvre créature. Vraiment, quel courage !
Cette chose ne valait pas mieux qu'un insecte.
Mais c'était un être vivant. Et il a fallu que tu le désintègres pour satisfaire ton insatiable appétit d'assassin.
Allez, silence, je ne veux plus rien entendre. Je vous ai donné l'ordre de remonter le Gargone.
J'aimerais autant ne pas en arriver là, capitaine.
Remonter le Gargone. Oui, tout à fait. Et la pauvre créature, c'est bien sûr le chien que j'évoquais un peu plus tôt. Voilà. C'est triste. Ouais.
Et c'est après qu'il y a une histoire de petits livres rouges. Effectivement, on pense tout de suite au livre de Mao.
Bah oui, oui. Je pense que c'est évident. Et puis c'est vrai que c'est dans un contexte après l'époque du marcartisme où tous les films de science-fiction des années 50 sont marqués par une vision anticommuniste. C'est même pas primaire, on va dire. Naïf. Ouais.
Donc ça sort en DVD, c'est l'invasion martienne.
C'est sorti, hein, il y a longtemps. Hein.
Ah oui. Sorti, alors...
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes?
Justement, il y a un autre film qui sort et ça tombe bien parce que c'est la Coupe du Monde et il est question de zombies et de football, c'est ça Marine?
Oui, donc c'est dans Goal of the Dead, en fait c'est une production Canal+. C'est sorti en salle mais avec un format assez particulier, c'est-à-dire un peu comme les films Grindhouse. C'est-à-dire que le film a été fait en deux parties, chacune étant en fait une mi-temps, voilà, vu que c'est sur le monde du foot. Donc première mi-temps, deuxième mi-temps et en fait les films étaient projetés l'un à la suite des autres avec des fausses bandes-annonces au milieu. Et chaque partie est en fait par un metteur en scène différent. Et voilà, et en fait, c'est français et étrangement, c'est à la fois une bonne comédie française et un bon film de zombies, ce qui est vraiment surprenant. Donc voilà, ça paraît être un oxymore, mais c'est une bonne comédie française de zombies. Mmh. Et c'est bien joué, c'est extrêmement satirique en fait par rapport à l'univers du foot. Donc en gros, si vous aimez le foot, vous aimerez. Et si vous n'aimez pas, bah, vous allez aussi aimer parce que vous allez bien vous marrer. Donc je le recommande vivement, c'est sorti cette semaine en DVD. Et ça passera, je pense, à la télé dans quelques mois sur Canal+. Et pour ceux qui se rappellent, le premier rôle en fait est joué par un des comédiens du film Les Gamins. Oui. Voilà, celui qui aimait un peu trop les MILF et qui joue là le premier rôle, Alban Lenoir.
C'est quand même curieux qu'il sorte finalement pas ce type de film en salle actuellement.
C'était un parti pris en fait. Oui, en fait, c'était vraiment leur parti pris. Ils voulaient ne passer le film que dans les festivals avec toute l'équipe du film en fait qui venait, etc. C'était voilà, c'est comme ça. Et apparemment, ils l'ont passé pendant un an dans tous les festivals en France et en Europe et même dans le monde, il me semble. C'est pour ça que moi, je l'avais vu au festival Hallucination Collective à Lyon.
Merci Marine. Donc ça sort cette semaine. On est à fond dans l'actu.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré pendu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Voilà, Cinérama, c'est presque la fin de saison. Alors, sauf si Montpellier Danse est annulé, je pense qu'on... Moi, je reviendrai peut-être la semaine prochaine, mais sinon, non. Voilà, merci Marine.
Donc le suspense reste entier, et bien peut-être à la semaine prochaine, peut-être voilà, pas.
Et 24 notes secondes.
Jen Hackman.
Merci.
Et bonne semaine à tous.
Il n'y a que des combines, il n'y a pas de héros, rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs, rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.